Prends le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc on place le corps d'abord en méditation. Pas de tension dans le corps, mais ayez une colonne vertébrale droite. Droite, on dit comme une flèche, mais sans tension. Donc pour qu'elle soit droite, pensez qu'avec la tête, vous poussez le plafond. Et de temps en temps, vous revenez à cette image. Et dans la pacification mentale, le regard est posé à l'oblique. Entraînez-vous à méditer les yeux ouverts. Posez les mains sur les genoux ou dans ce geste-là que vous posez ici, mais évitez de laisser les mains devant vous comme ça, parce que ça vous tire en avant. Donc, maintenez la colonne vertébrale droite. Ça, c'est le point principal. Ensuite, pour l'esprit, comment placer l'esprit en méditation? Les personnes qui ont l'habitude de méditer, essayez de méditer sans support. Et soyez simplement conscient de ce qui apparaît dans votre esprit. Tous les phénomènes, quels qu'ils soient, reconnaissez-les comme étant impermanents, dépourvus d'existence propre, c'est-à-dire qu'ils apparaissent en dépendance de multiples causes et conditions. Et si vous les saisissez, dukkha apparaît immédiatement dans l'esprit. Faites cette expérience. Pour les personnes qui découvrent la méditation qui médite depuis peu de temps, placez votre attention, votre esprit, votre conscience sur la respiration. Je suis conscient que j'inspire, conscient que j'expire. Ça, c'est le support de méditation. Ne cherchez pas à créer un état méditatif quelconque. Soyez simplement conscient de votre respiration. Et tout en étant conscient de votre respiration, vous continuez d'avoir des pensées, des perceptions, des sensations et des formations mentales. Donc il n'y a rien à chasser, il n'y a rien à modifier dans ce courant d'apparition des phénomènes. Simplement, ne vous laissez pas entraîner par les pensées, les sensations et d'autres phénomènes. Tant que vous êtes conscient de votre respiration, vous n'êtes pas dans la distraction. Si à un moment donné vous constatez que vous n'avez plus conscience de votre respiration, identifiez l'objet sur lequel s'est posé votre esprit et qui est en train de vous distraire. Identifiez que c'est une pensée, par exemple. N'analysez pas le contenu de cette pensée, pourquoi vous avez pensé à ça. Prenez simplement conscience que votre esprit, eh bien, s'était posé là-dessus. Et lâchez ce phénomène. Le lâcher veut dire ne plus lui accorder l'attention que vous lui accordiez. Donc ça ne consiste pas à le chasser ou à porter un jugement sur la présence de ce phénomène, c'est ne plus lui accorder d'attention. Et quand vous l'avez lâché, tranquillement, vous replacez votre attention sur la respiration, sur le support. Et vous appliquez cela encore et encore pendant tout le temps de la session. Pas de distraction, mais pas de torpeur non plus. Si vous avez un peu de torpeur, donnez davantage de clarté à l'esprit en agissant d'abord sur le corps, en retendant votre posture physique. Au sujet de la méditation, il faut bien comprendre dès le début que méditer ne veut pas dire ne plus avoir de phénomènes, ne plus avoir de pensées, ne plus avoir de sensations, de perceptions ou d'états mentaux. Si nous sommes tristes, nous sommes tristes, et même si l'on médite, on continuera d'être triste. Mais méditer veut dire entraîner son esprit. À quoi entraîne-t-on notre esprit ? À ne pas s'accrocher à l'ensemble de ces phénomènes. Nous aurons toujours des pensées par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé et par rapport à ce que nous pensons vivre dans le futur. L'être humain a cette faculté de se souvenir et de projeter. Et ça, même si l'on médite, on ne perd pas cette faculté. Par contre, comment nous réagissons par rapport à cela, ça, c'est à cela que doit nous servir la pratique méditative. Tout le but du dharma, c'est-à-dire de la voie bouddhiste, a un seul objectif, c'est la libération de la souffrance. Quand le Bouddha énumérait les différentes formes de souffrance, la forme la plus grossière de la souffrance, il la déclinait en quatre points, la souffrance de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Souffrance de la naissance, on ne s'en souvient pas trop bien. Bien, mais la maladie, on a tous été malades et on risque tous d'être malades un jour. Si on envisage que la libération de la souffrance de la maladie, ça consiste à supprimer la maladie, on a tout faux, quoi. Parce que même le Dalai Lama, quand il est malade, il est malade. Donc que veut dire se libérer de la souffrance de la maladie ? Que veut dire se libérer de la souffrance de la vieillesse si on devient âgé, il y a des inconforts au fait de devenir âgé. Et le Dalai Lama lui-même a 81 ans, vous avez vu comment il se déplaçait quand il est venu à Strasbourg, il a de l'arthrose apparemment dans les genoux, et il a beaucoup de mal à marcher, quoi. Tout Dalai Lama qu'il soit. Comment se libérer comment se libérer de la souffrance de la mort, alors que s'il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un jour, on devra faire face. Donc se libérer de la souffrance, ça n'est pas la libération de la souffrance elle-même, de la maladie, de la vieillesse ou de la mort, mais c'est se libérer de comment nous réagissons par rapport à ces situations auxquelles nous devrons nous confronter. Alors pour cela, nous devons comprendre, et je m'adresse surtout aux anciens, nous devons absolument comprendre en termes d'expérience, en termes de certitude, que notre façon de réagir par rapport à l'ensemble des phénomènes, des situations que nous rencontrons, ce fonctionnement ordinaire dans sa forme de réaction, est cause de souffrance, pour nous et souvent pour les autres. Et nous devons absolument faire l'expérience de cela, être certain que c'est notre façon de réagir par rapport à telle circonstance, et bien qui crée la souffrance dans notre esprit. Tant que nous ne faisons pas cette expérience, nous reportons toujours la cause de notre souffrance sur les autres, ou sur telle ou telle situation. Oui, c'est parce que je suis vieux que je souffre. Oui, c'est parce que l'autre m'a insulté. Oui, parce que ça ne va pas comme je veux, et la politique, et l'économie, et ci, et ça, et il y a de multiples facteurs. Aller dans un bistrot, écouter ce qui se dit. Tout le monde râle, Mais tout le monde porte la responsabilité de ce mal-être sur telle situation. Il n'y en a pas une personne qui dit « mais je vais mal, mais est-ce que ça ne viendrait pas de moi ?» Et ça, c'est ce que le Bouddha nous enseigne. Dans la deuxième noble vérité, la première, c'est « tout le monde souffre ». D'accord. Tout le monde veut être heureux, mais tout le monde souffre. Ça, c'est la première noble vérité. Mais la deuxième, c'est quelle est la cause de cette souffrance. Et le Bouddha démontre que la cause, eh bien, ce n'est pas fondamentalement dans les circonstances et les autres, mais c'est plus profondément comment je réagis par rapport à ces circonstances. Et comment je réagis, ça m'appartient. C'est mon esprit qui réagit. Alors mon esprit réagit de telle façon parce qu'il est conditionné par des tendances, par tout un ensemble de choses. Mais nous devons être sûrs que ce fonctionnement ordinaire de notre esprit entraîne de la souffrance pour moi et pour les autres. Tant que ce n'est pas sûr, eh bien, on ne peut pas passer à la troisième noble vérité, à la vérité de la cessation. Parce que si je me rends compte, si j'expérimente que c'est ce fonctionnement ordinaire qui est cause de ma souffrance, mais je peux comprendre et admettre que si je modifie ce fonctionnement-là, eh bien, je peux me libérer de la souffrance que le fonctionnement ordinaire occasionne. Et là, je comprends que si je suis cause de souffrance, mais je peux être cause de ma libération. Et ça, c'est la troisième noble vérité, la vérité de la cessation. Et la quatrième, bon, c'est le chemin qui conduit à cela, en gros, la méditation. Et pourquoi méditer? Parce que c'est notre esprit qui fait l'expérience de la souffrance. Et donc, nous devons absolument comprendre la cause. Pour moi, la deuxième noble vérité, c'est vraiment la plus importante. Sinon, nous sommes comme si nous étions malades, mais que le médecin n'arrive pas à identifier la cause de cette maladie. Alors le traitement qu'il va donner, eh bien, ça ne sera pas vraiment approprié et ne déracinera pas la cause de cette maladie. Le médecin, c'est nous. Le Bouddha disait, avant de mourir, vous n'avez qu'un seul maître, vous-même. C'est-à-dire que tout ce qu'il a enseigné, c'est important, on a besoin d'une méthode. Les maîtres aujourd'hui nous montrent la méthode, on reçoit des instructions pour vivre la méthode, mais qui applique la méthode? C'est nous-mêmes, quoi. Et je ne peux pas appliquer la méthode pour vous, et personne ne le peut pour moi, quoi. Le Bouddha n'a pas pu modifier, mais un iota de l'esprit de ses disciples. Il n'a pu que enseigner comment le modifier. Mais l'entraînement, nous devons le faire. Alors, premièrement, ça suppose que sommes-nous vraiment malades, quoi? Est-ce qu'on se considère comme malade? Malade de l'ignorance fondamentale. Malade de cette perception d'exister en tant que moi, entité unique, autonome et permanente. Même si on le comprend intellectuellement, quand on dit moi, on ressent une espèce d'entité qui répond à ce mot, quoi, en nous-mêmes. Quelqu'un m'insulte, il y a quelque chose en moi qui dit « je suis insulté, je n'aime pas ça, je ne supporte pas ça ». Et on le sent presque physiquement, il y a quelque chose qui se crispe. Ça, c'est ce que le Bouddha appelait l'ignorance fondamentale, cette conception d'un moi. Est-ce que je me sens malade de ça, quoi? Est-ce que je veux mettre un terme ou est-ce que je veux guérir de cette maladie? Tant que ça, ce n'est pas clair, on méditera parce qu'on aura besoin de méditer ou parce qu'on trouve un Rinpoche sympa, ça me donne envie de méditer, mais ça ne viendra pas vraiment de nos tripes et surtout ça manquera de régularité dans notre pratique. Vous savez, quand on est malade physiquement et qu'on a un traitement à suivre, même s'il n'est pas très sympa à suivre, si vous devez le prendre 3 fois par jour, vous le prenez 3 fois par jour. Et avec régularité en général. Pourquoi? Parce qu'on a envie de retrouver l'état de bonne santé, quoi. Alors, est-ce qu'on a envie de guérir de cette ignorance fondamentale? Et ça, c'est à chacun de vraiment se poser la question, et pas une seule fois, mais régulièrement. Parce qu'à longueur de journée, nous vivons sous l'emprise de cette ignorance fondamentale. Moi, je veux ça, moi, je ne veux pas ça. Et on est continuellement dans l'attachement et dans l'aversion. Mais ça, c'est à cause de cette ignorance fondamentale. Est-ce que je veux fonctionner autrement? Est-ce que je veux être libre de ce fonctionnement? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et quand ça devient vraiment une certitude, alors ça devient évident qu'il nous faut suivre un entraînement pour modifier ce fonctionnement-là. Et la méditation, c'est cet entraînement, mais la réalisation de l'éveil, c'est pas si compliqué que ça, nous disait Rinpoche ou Sikkim. Ce n'est pas compliqué. Ce qui rend compliqué les choses, ce sont nos tendances, nos voiles. On n'y croit pas, on a des doutes. On a la conception qu'il faut étudier une centaine de textes, qu'il faut faire des tas de pratiques pendant des années et des années, parce qu'on ne peut pas demeurer dans la nature de l'esprit comme ça. À cause de ces voiles. Donc, toutes les pratiques qui existent, quelles que soient les écoles bouddhistes dans lesquelles elles existent, toutes les pratiques ont pour but de purifier ces voiles. C'est ce qu'on appelle l'accumulation de mérite. C'est peut-être pas un terme très juste, vous n'aimez peut-être pas le terme accumulation ni mérite. Mettez d'autres termes sur les termes, ça c'est aucun problème. Mettez les termes qui vous enchantent, mais pratiquez ce que les termes veulent dire. Nous avons besoin, eh bien, de purifier ces tendances. Alors faut-il les connaître encore, ces tendances ? Parce que si on ne les connaît pas, que purifie-t-on ? En quoi telle tendance à la colère, telle tendance à la jalousie, telle tendance à l'orgueil, ça porte préjudice à moi-même et à autrui ? Ce sera tout le thème de l'enseignement de ce soir dans le texte dans lequel nous sommes actuellement. Nous devons vraiment nous poser ces questions. Il y a trop de pratiquants bouddhistes, à mon goût, qui ne se posent pas ces questions et qui appliquent simplement parce qu'ils sont dans un état d'esprit de croyance ou de respect. Je fais ça parce que le Bouddha l'a demandé, je fais ça parce que tel maître me le demande. Cette façon d'appliquer, cette façon d'agir sans discernement, sans réflexion, sans notre participation de notre intelligence, c'est pas vraiment bouddhiste. Nous devons comprendre pourquoi nous suivons le Dharma. Que voulons-nous transformer et de quoi voulons-nous nous libérer dans notre pratique du Dharma. Et nous devons être clairs avec ça. Il y a certains jours, nous avons besoin de pratiquer telle pratique parce que cette pratique va cibler quelque chose que je sens chez moi qui fait obstacle à ma libération. Mais 8 jours après, si cet obstacle diminue, disparaît, on a peut-être besoin d'une autre pratique pour cibler une autre forme de tendance. Ça demande de l'intelligence, ça demande l'observation sur notre fonctionnement de l'esprit. Nous n'avons pas appliqué ça parce que, eh bien, tel lama nous dit de faire cette pratique-là, et puis de la faire sans savoir en quoi elle va purifier. Si vous avez besoin de pratiquer la compassion parce que vous vous rendez compte que votre bodhicitta, que votre esprit d'éveil, que cette compassion n'est plus vraiment au rendez-vous, ok, quelles sont les pratiques que vous pouvez faire? Et là, les anciens, vous devez trouver dans votre bibliothèque les pratiques, les textes, eh bien, qui vont mettre l'accent sur le développement de l'amour, de la compassion. Alors vous avez l'ojong, vous avez la pratique de chenrezi, peu importe ce que vous allez choisir. Mais ciblez votre pratique par rapport à l'obstacle que vous rencontrez. Nous sommes doués de cette intelligence, de ce discernement, de cette réflexion. Rappelez-vous, il n'y a pas à pratiquer parce que le Bouddha l'a dit, quoi. Je pratique parce que j'ai besoin de travailler sur tel aspect de mon esprit, point. Et quand le Bouddha dit, en final, c'est vous, votre seul maître, ben, c'est ce que ça veut dire, quoi. Quand on sera sur notre lit de mort, sur quoi faudra-t-il compter? Mais sur notre esprit, point. Pas sur autre chose. C'est pas votre mari ou votre femme ou vos enfants qui vous tiendront la main qui va absolument tout apaiser dans votre esprit. Si vous avez la trouille, vous aurez la trouille. Si vous avez le Dalai Lama au pied de votre lit, ouais, c'est très bon karma, on va dire. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau, hein. N'y comptez pas trop, quand même. Par contre, on ne peut compter que sur une chose, sur notre esprit, sur la transformation de notre esprit. Et à ce sujet, je voudrais vous raconter ce qui s'est passé il y a 2 semaines et qui me rend très heureux. C'est Lama Orgyen de Kagyu Ling qui est décédé il y a 2 semaines. Il avait 83 ans. Et Slama, je l'aimais beaucoup parce que c'est de lui que j'ai appris tous les rituels du bouddhisme tibétain, du Vajrayana. Il était d'une exigence... Quelquefois, il nous cassait les pieds quand même. Hein. Mais parce qu'il était toujours grognon, jamais satisfait, mais toujours souriant et toujours adorable quand même. Et alors, un jour, par exemple, pour l'idée de son exigence, on travaillait les tormas. Vous savez, ces figurines d'offrandes dans les rituels du Vajrayana, du bouddhisme tibétain, qu'on offre pendant le rituel. Alors, il y a des tas de sortes de formes, etc. Donc, il nous apprenait tout ça. Et lui, il faisait ça, mais alors, parfaitement. Quoi. C'était beau, c'était très équilibré, bien. Et quand, au bout de quelques heures, on arrivait à faire une torma qu'on trouvait pas mal, on disait, Lama, qu'est-ce que vous en pensez de ma torma ? Oui, pas mal. Et il écrasait tout, quoi. À refaire. Voilà, ça, c'était le style de la Morguette, puis il s'en allait en rigolant. Et voilà. Bon, ce lama a passé quoi comme temps de retraite ? Il a fait une retraite de 3 ans, et puis basta, quoi. Il n'a pas vécu 30 ans dans une grotte au fin fond de l'Himalaya, comme on voit souvent dans les textes, quoi. Des grands yogis, etc. Mais il est mort il y a 2 semaines. Il était dans un centre en Espagne, dans les Pyrénées, mais du côté espagnol. Et il y a un orage qui se préparait. Et il a dit aux personnes qui l'accompagnaient, « Laissez-moi tranquille, je veux aller dans le centre de retraite. » Il y est allé. L'orage passé, des personnes sont allées le voir en lui disant, « Mais si vous voulez, je vous raccompagne à votre maison. » Et la Morgane a dit, « Non, non, je ne veux plus être dérangé, laissez-moi tranquille. » En fait, il savait qu'il allait mourir. Et le lendemain matin, ils sont allés le voir dans le centre de retraite. Il était en posture de méditation, il était mort, mais il était toujours en posture de méditation et son corps est resté chaud plusieurs jours, comme dans tous les cas de mort, de personnes qui meurent et qui sont de véritables pratiquants. Ça veut dire en fait que la Morgane, alors je suis très heureux pour lui parce que pour moi c'est clair, s'il est mort comme ça, c'est qu'il a réaliser la nature de l'esprit, donc il n'y a plus de soucis pour lui. Mais je trouve en même temps que c'est un très bon exemple pour nous, quoi. Parce que ce n'est pas un yogi exceptionnel qui a passé, comme je vous disais, 30 ans dans une grotte. Néanmoins, il a travaillé sur son esprit toute sa vie. Quand il enseignait, quand il était en voyage pour enseigner, quand il nous apprenait ci, quand il avait une vie en apparence tout à fait ordinaire, mais il y avait cet entraînement de l'esprit continuel. Et ça nous montre qu'on peut avoir cet entraînement-là dans notre activité. Quand vous êtes chez vous, quand vous travaillez, quand vous êtes avec vos enfants, quand vous faites vos courses, etc., sachez ce qui se passe dans votre esprit, quoi. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre esprit. Ne soyez pas conscient simplement de ce que vous lisez, par exemple, mais soyez conscient de ce que cette lecture fait naître comme réaction dans votre esprit. Et c'est ça qu'il faut lâcher. Et ça, vous pouvez le faire, mais à longueur de journée, si vous vous entraînez. Et alors, vous finirez, au moment de la mort, comme la Morgane, c'est-à-dire mourir en tuk dam, ça s'appelle, mourir en tuk dam. C'est-à-dire, en méditation. Comme nous disait Rinpoche Rinpoche, ce n'est pas si compliqué, quoi. Seulement, voilà, il y a les tendances, il y a les voiles, il faut purifier ces tendances, il faut purifier... ces voiles. Qu'est-ce qui m'empêche de réaliser cela ? C'est l'attachement, c'est l'aversion, c'est la colère, c'est l'orgueil, la jalousie, tout ce qu'on appelle les facteurs perturbateurs. Alors travaillez là-dessus. Comment vous sentez-vous ? Même si vous avez de la tristesse, même si vous avez de la joie, etc., laissez passer, ne vous accrochez pas à cela. Soyez conscient de ce qui s'élève dans l'esprit. Et laissez passer, quoi. Ne vous y accrochez pas. C'est la seule solution. C'est ça la libération. Il n'y a pas d'autre moyen, quoi. Toutes les pratiques, vont permettre, nous permettre nous permettre d'avancer plus vite dans la non-saisie des phénomènes. Après, il faudra comprendre aussi la nature de cette conscience qui ne saisit pas. Voilà. Mais dans un premier temps, travailler sur la non-saisie des phénomènes, quels qu'ils soient. Nous ne pouvons pas éviter les situations que nous vivons. Si vous êtes malade, vous êtes malade. S'il y a quelque chose qui vous rend triste, vous êtes triste, quoi. Et ne faites pas comme certains que l'on voit dans des centres. Je ne m'accroche à rien, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, parce que je n'ai pas de saisie. Et tout ça, c'est du blabla. Hein. C'est normal d'avoir tous ces phénomènes. Mais faites en sorte de ne pas vous y accrocher. Quoi. Et ça demande un entraînement. La méditation qu'on a faite, c'est la méditation pour cet entraînement-là. Et maintenant, il n'y a pas de miracle dans le bouddhisme. Si vous voulez que cette méditation apaise l'esprit, c'est-à-dire permettre à moins s'accrocher aux phénomènes, il faut méditer tous les jours. Il n'y a pas d'autre solution. Alors méditer tous les jours, ça veut dire méditer, commencer par méditer 20 minutes. Mais si vraiment ce type de méditation, vous avez envie de méditer, travailler sur votre esprit, prenez l'engagement personnel de ne pas aller vous coucher sans avoir fait vos 20 minutes de méditation. Il y a des jours, ça sera facile, il y a d'autres jours, ça sera moins facile, parce que j'ai ci, j'ai les enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai le travail, j'ai mon activité, on m'appelle, on me distrait, etc. Oui, d'accord, mais vous prenez tous les jours le temps, bien 20 minutes quand même, pour regarder des conneries à la télé, ou pour vous détendre en faisant ci ou en faisant ça. Il y a un maître Nyingmapa, Jigme Rinpoche, qui disait, il y a un ouvrage qui s'appelle « Le goût du thé », et dans cet ouvrage, il dit, vous ne trouvez pas 20 minutes, donnez-moi votre emploi du temps, moi je vais vous les trouver, les 20 minutes. Et je pense qu'on peut les trouver. Mais ne commencez pas en vous disant, d'accord, je médite une heure. Parce que ça, c'est déjà plus compliqué. Et quelques jours, on n'a pas vraiment envie de méditer. Et une heure, c'est long, quoi. 20 minutes, on peut s'ennuyer pendant 20 minutes. Mais acceptez le jeu, quoi. Et vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, on va dire, eh bien, l'esprit est davantage plus calme, c'est-à-dire qu'il est moins prompt à suivre tout ce qu'il expérimente, quoi. Et ça, c'est le début du calme. Donc l'esprit peut être calme alors qu'il est très agité. Il peut y avoir plein de pensées qu'il traverse, mais il reste calme parce que vous n'en suivez aucune. Ce calme, ce n'est pas de l'indifférence, parce que dans le calme véritable, il y a la conscience des pensées, la conscience des phénomènes. Dans l'indifférence, on perd cette conscience. Et on reste là, comme ça. C'est clair ? Alors, nous sommes dans ce texte des 37 pratiques de Bodhisattva. Le Bodhisattva, c'est celui qui consacre sa vie à la recherche de l'éveil, mais pas seulement pour lui-même, mais pour tous les êtres. Ça, c'est vraiment un concept dans le grand véhicule, le Mahayana. Le bouddhisme tibétain fait partie du Mahayana. Donc, en fait, nous sommes tous des bodhisattvas. À partir du moment où on pratique le bouddhisme grand véhicule, on est tous des bodhisattvas. On doit se soucier et bien de la libération de la souffrance, mais de tous les êtres. Notre motivation, on doit l'étendre à tous les êtres, puisqu'en fait, tous les êtres aspirent à cela. Ce n'est pas propre à quelques individus. Il n'y a pas un individu sur la planète, il n'y a pas un animal, même un animal, qui a envie de souffrir, quoi. Regardez la réaction d'un animal quand il y a un prédateur qui se pointe, quoi. Il cherche à se protéger. Cette motivation, elle doit être étendue à tous les êtres. Alors, il y a 37 pratiques, il y a un texte qui s'appelle « Les 37 pratiques de Bodhisattva » et qui nous donne donc des instructions à comment devenir un véritable Bodhisattva. Et je vous lis la 19e. « Même si nous avions gagné un grand renom et si beaucoup de gens se prosternaient respectueusement devant nous, même si nous avions acquis des richesses égalant le trésor du dieu de la prospérité, je ne savais pas qu'il existait, hein, voir toute la splendeur du monde et la fortune comme dépourvue d'essence et ne pas devenir arrogant est la pratique d'un bodhisattva. » Je vous la relis. Même si nous avions gagné un grand renom et si beaucoup de gens se prosternaient respectueusement devant nous, même si nous avions acquis des richesses égalant le trésor du dieu de la prospérité, voir toute la splendeur du monde et la fortune comme dépourvue d'essence et ne pas devenir arrogant est la pratique d'un bodhisattva. Donc là, c'est travailler sur l'arrogance, l'orgueil, de façon générale. L'orgueil, c'est un facteur perturbateur des plus subtils et des plus difficiles à déceler par soi-même que nous avons de l'orgueil. Le mot orgueil en tibétain, c'est intéressant, c'est ngagyel. Nga, c'est moi. Gyel, le roi. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je suis au centre, je suis le roi, quoi. Le moi est le roi. Moi, c'est le roi. Donc ça, c'est ngagyel. Et en général, il est très difficile par soi-même de découvrir que nous sommes orgueilleux. J'ai un copain qui un jour a vraiment s'est rendu compte qu'il était très orgueilleux. Il était en larmes, il est allé voir son lama racine, tel Rinpoche, et Rinpoche a rigolé. Il lui a dit « Mais c'est un grand pas que vous venez de faire dans votre cheminement spirituel, quoi. » Parce qu'il est difficile de se savoir par soi-même orgueilleux. On a besoin qu'on nous le montre, on a souvent besoin qu'on nous le dise que nous sommes orgueilleux. Parce que c'est un facteur perturbateur qui est beaucoup plus subtil et aveuglant que la colère, que la jalousie, même que l'indifférence. Alors il se peut que quand notre vie change et que nous tombons dans la notoriété, l'aisance financière par exemple, on tire un orgueil et une arrogance par rapport à cela. Mais le texte nous dit que l'antidote à cela, c'est de voir l'essence de ces situations. Et quelle est l'essence de ces situations? Impermanence. Même si nous sommes riches aujourd'hui, vous savez, pas sûr que ça dure. Et regardez par exemple toutes les personnes qui gagnent au loto, paraît-il, il y en a beaucoup qui se retrouvent sur la paille quelques mois ou quelques années après, quoi. C'est-à-dire que toutes les situations changent. Regardez autour de vous, il y a des gens qui n'avaient rien, qui se retrouvent avec beaucoup, il y en a qui avaient beaucoup et puis qui se retrouvent avec pas grand-chose, etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une instabilité dans tout phénomène, c'est ce qu'on appelle l'impermanence. Il n'y a pas à s'accrocher à quelque chose qui se modifie d'instant en instant et qui est instable par nature. Pourquoi devenir orgueilleux de cela alors que peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, tout aura disparu? Cela ne veut pas dire qu'on ne profite pas de ce qui est agréable, et si on a de l'argent, ma foi, c'est très bien. Mais pourquoi développer de l'orgueil par rapport à cela? L'orgueil vient du fait de solidifier cette situation et de ne pas comprendre que cette situation, elle est changeante à chaque instant et que ça peut ne pas durer, quoi. Il y a Ringo Rinpoche, pendant qu'on était au Sikkim, il nous a pas mal parlé de lui. Et quelqu'un lui a posé à un moment donné la question, mais pourquoi vous n'avez pas reconstruit, même aujourd'hui, pourquoi vous ne construisez pas un monastère? Il avait un monastère au Tibet. Alors d'abord, il l'a reconstruit au Tibet, avec un centre médical, une école, etc. Mais sa réponse a été, je ne veux plus rien de solide. Parce que, à deux reprises, tout ce que nous avions construit avec ma famille, ça a été rasé, mais à zéro. D'abord, ils ont tout perdu au Tibet. Ils ont tout perdu, non seulement ils étaient, je pense, d'une famille assez aisée, et ils ont tout perdu ce qui était matériel. La moitié de la famille a été massacrée. Et quand le reste de la famille a pu s'exiler, ils étaient des centaines, ils se sont joints à un groupe, et il y avait des centaines qui essayaient de traverser l'Himalaya pour rejoindre l'Inde. Ils sont arrivés à quelques dizaines, quoi. C'est-à-dire que le froid, le manque de nourriture, vous imaginez, traverser des cols à 6000 mètres, etc. Il y a eu beaucoup de morts. Et il dit, on a dû tout recommencer en arrivant en Inde, quoi. Et alors, il ne nous a pas expliqué au Sikkim ce qu'ils ont construit en arrivant. Tout a été à nouveau réduit à néant. Mais il nous a dit au Sikkim, nous avons tout perdu à nouveau. Et il a fallu tout recommencer à zéro, quoi. Donc il dit, moi, tout recommencer, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Voilà, il est... Bon, puis il n'a peut-être plus trop l'âge non plus de tout recommencer à zéro, quoi. Hein? Mais pour lui, c'est quelque chose qu'on sentait qui était évident pour lui, quoi. Alors, il nous dit, justement, Rinpoche nous dit, En commentaire à cette strophe, on constate souvent que si les êtres humains parviennent à faire face aux problèmes plutôt facilement, il leur est bien plus difficile de faire face à la réussite et au succès. Nous devons comprendre que toutes ces choses n'ont pas de réelle substance. L'attachement ne provient pas de la possession des choses, mais plutôt de la façon dont notre esprit y réagit. Et un jour, quelqu'un me disait « Ah, moi je n'ai pas d'attachement ». Quand quelqu'un vous dit ça, vous savez, déjà vous commencez à douter quand même. Hein, parce que l'attachement, c'est le facteur perturbateur le plus puissant dans le monde humain. On est attaché à tout. Alors j'ai fait semblant avec ma clé d'aller lui rayer sa voiture. J'ai tout de suite dit, bah là, vous voyez, vous n'êtes pas très libre, hein, quand même. Hein. Mais c'est clair, quoi. Alors travailler sur l'attachement, de grâce, ne commencez pas à travailler sur l'attachement que vous avez pour votre conjoint ou vos enfants. Hein. Parce que alors ça, c'est mission impossible. Ou du moins, on ne commence pas par ce genre de mission. Et par contre, commencez à travailler sur l'attachement par rapport au petit bibelot que vous avez reçu de votre grand-mère. Et que, voilà, vous allez me dire, oui, il y a une charge affective. Comment finissent les bibelots? Vous avez été témoin un peu de ça? Allez dans les puciers, les ventes sur les trottoirs, etc. Le nombre de bibelots, avec grosse charge affective, paraît-il, hein, mais le nombre de bibelots que vous retrouvez poussiéreux en vente pour 1 €, voilà comment ça se termine, tout ce à quoi on est attaché. Et ça, c'était une très bonne expérience de prendre conscience de ça. Hein, la collection de timbres, tel bouquin, etc. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en jouir. Tant que c'est chez vous, votre bibelot, appréciez-le, quoi. Et puis dites-vous, bah d'accord, c'est ma grand-mère qui me l'a refilé, ça a une certaine valeur affective. Appréciez-le, appréciez-le. Mais pourquoi vous attachez à ça alors que ça va finir dans un vide-grenier? Pourquoi s'attacher à ça? Alors ça, il faut bien comprendre que l'attachement et le plaisir, ce sont deux choses différentes. On peut apprécier ce que l'on a. Et ce n'est pas le plaisir qui est cause de souffrance. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour bien voir, pour avoir la certitude que c'est l'attachement qui est cause de souffrance? Est-ce que vous expérimentez ça, quoi? Parce que si vous expérimentez vraiment ça, vous allez commencer à vouloir vous libérer de l'attachement. C'est la libération qui est l'objectif du dharma. Si nous pratiquons le dharma, eh bien nous souhaitons nous libérer. Mais de quoi? Eh bien de l'attachement. Pourquoi me libérer de l'attachement? Parce que je constate que l'attachement me fait souffrir et fait souffrir les autres. Si je ne suis pas sûr de ça, vivez attaché, hein. Il n'y a pas de souci. Mais un jour, vous expérimenterez vraiment que l'attachement est cause de souffrance. Alors, Rinpoche explique que cette strophe souligne l'importance de maintenir une stabilité quelle que soit notre situation. La stabilité de l'esprit dans la façon de réagir par rapport à telle ou telle situation. Qu'est-ce qui apporte cette stabilité à l'esprit? C'est la méditation, notamment la méditation de la pacification mentale, comme nous l'avons pratiqué tout à l'heure. Et vous vous rendez bien compte, ceux qui pratiquent depuis des années, qu'il y a quand même une certaine stabilité qui s'est mise en place dans votre esprit, non? Vous ne répondez pas tous en même temps. Mais vous expérimentez ça quand même, non? J'espère. Bon, bah ouais, dites-le de façon massive, quoi. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites sur votre coussin, quoi? On se rend bien compte que on est moins prompt à réagir contre l'aversion, par exemple, ou dans telle ou telle situation, on est un peu moins affecté. Même si la situation est difficile, mais notre esprit n'est pas enseveli, submergé par tel ou tel facteur perturbateur. Ça, on peut expérimenter ça. C'est ça la stabilité de l'esprit. Ce n'est pas toujours très stable, mais on peut expérimenter quand même que la pratique permet cette stabilité de s'installer dans notre esprit. Voilà, ça c'est important de le constater et de l'expérimenter, quoi. Donc, par rapport à cette stabilité, Rinpoche explique qu'un bodhisattva peut gérer n'importe quelle situation de façon stable. Tant que cette capacité nous manquera, nous aurons des hauts et des bas comme un yo-yo. Voilà. Et c'est cette stabilité que l'on ressent quand on est tout proche d'un Rinpoche. On sent cette stabilité de l'esprit, quelles que soient les personnes qu'il rencontre, les situations qu'il rencontre. On sent qu'il n'est pas démoli par les situations, qu'il n'est pas cassé par les situations. Ça ne veut pas dire qu'il n'éprouve rien. Il éprouve certaines choses. Mais son esprit n'est pas, balayé par la situation. Et il y a cette stabilité, quoi. Alors cette stabilité, elle vient beaucoup aussi dans le fait de vivre l'instant présent. Or, notre tendance, c'est de vivre dans le passé et de vivre dans le futur. Nos regrets, tout ce que nous n'avons pas fait, mal fait, trop bien fait ou pas assez bien fait, peu importe, tout ce que nous avons vécu dans le passé, eh bien, ça engendre des tas de pensées et nous sommes dans le regret, la nostalgie, et si j'avais su, et oh, je ne me serais pas pris comme ça, etc. Le passé est passé, vous ne pouvez plus rien changer à ces situations. Elles ne sont plus existantes. C'est juste un souvenir qui fait naître ce genre de pensée. Et ces pensées qui apparaissent par rapport à ce que nous avons vécu, elles ne peuvent apparaître que dans l'instant présent. Maintenant, dans le futur, les projections dans le futur, c'est pareil. Pourquoi a-t-on peur de mourir, quoi ? Comme disait Kalo Rinpoche, pourquoi avez-vous peur de mourir ? Ça ne dure qu'une seconde. Et vous verrez bien quand vous y serez. Oui, en théorie, oui. Mais alors, qu'est-ce qu'on flippe, quoi ? Hein ? Et pourtant, on a cette capacité à se projeter dans le futur. Mais nos appréhensions, nos angoisses pour comment ça va se passer, il n'y a qu'à entendre les gens aujourd'hui, mais le futur, comment ça va se passer politiquement, etc., où est-ce qu'on va, etc. Il y a de plus en plus de gens qui stressent, qui ont la trouille, qui... Bon. Mais ça, c'est une projection dans le futur. La situation n'existe pas encore. Alors, bien sûr qu'on peut se poser la question. Oui, ça d'accord. Mais se poser la question, c'est être dans l'instant présent. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vis ? Alors bien sûr que l'instant présent, ça construit le futur. Donc je ne peux pas faire n'importe quoi dans l'instant présent, parce que le futur, c'est la conséquence de cet instant présent. Mais je dois être conscient de l'instant présent, parce que si je veux apporter une réelle réponse dans l'instant présent, eh bien je dois être conscient de la réponse par rapport à ce qu'est cet instant présent. Mais pourquoi souffrir par rapport au futur ? Pourquoi souffrir par rapport au passé, quoi ? Dans un cas, le futur n'existe pas encore, et dans l'autre cas, eh bien, le passé n'existe plus, quoi. La seule réalité, c'est l'instant présent. Et si je m'habitue à être conscient du fonctionnement de mon esprit dans l'instant présent, eh bien, j'apporte une certaine stabilité à ce fonctionnement d'esprit. Les Rinpoche vivent beaucoup dans l'instant présent. Ils ont des souvenirs comme nous et ils ont des projets comme nous. Mais ils vivent beaucoup dans l'instant présent, à tel point que quelquefois ils sont déroutants. Parce que Ringo Rinpoche, quand il a fini quelque chose, il a franchement fini. Il n'y a pas de trace chez lui. Et la situation la plus probante chez lui, c'est quand il dit au revoir. Quand il vous a dit au revoir, ben, il vous a dit au revoir. Mais nous, on dit au revoir, la larme à l'œil, Rinpoche s'en va, et on est là, see you, goodbye. Alors Rinpoche, bon, ben, il nous répond, quoi. Mais lui, son esprit n'est plus là, quoi. Il est passé à autre chose. Et on sent ça très fort chez eux. Dalai Lama, c'est typique, hein. C'est typique. Il est là, et puis s'il va là, il est là, quoi. Et il n'est plus ici. Vous donnez rendez-vous, il vous donne rendez-vous à 18h. Si vous arrivez à 18h10, il est parti. Alors, la 20e strophe. Si nous ne soumettons pas l'ennemi qu'est notre propre haine, combattre des ennemis extérieurs ne fera qu'en augmenter le nombre. Par conséquent, dompter notre courant mental en rassemblant les autres que sont l'amour et la compassion et la pratique d'un bodhisattva. Si nous ne soumettons pas l'ennemi qu'est notre propre haine, combattre des ennemis extérieurs ne fera qu'en augmenter le nombre. Par conséquent, dompter notre courant mental en rassemblant les autres que sont l'amour et la compassion est la pratique d'un bodhisattva. Alors on parle de la haine. La haine, c'est de la même famille que la colère, l'aversion, l'irritation, etc. Il y a juste une différence d'intensité dans la manifestation de ce facteur perturbateur. Il y a beaucoup de personnes qui, quand on voit cette strophe, disent « Ah, mais moi, je n'ai pas de haine. Je ne hais personne, quoi. » Oui, mais enfin bon, vous avez quand même de temps en temps de la colère, non? Vous avez quand même de temps en temps de l'aversion, non? Pour quelqu'un qui peut-être vous a blessé, alors oui, vous n'allez pas aller le liquider, vous n'avez pas de la haine qui vous pousse à aller le trucider, quoi. Oui, d'accord. Mais que vous ayez de la haine, que vous ayez de la colère, ou une simple aversion, les moyens sont différents, les résultats sont différents, mais le fonctionnement de l'esprit au départ est le même. C'est exactement le même. Et je me souviens que le 11 septembre 2001, qu'il y avait à New York les tours, bon, etc. J'étais ce soir-là en enseignement à Nancy, et donc tout le monde était un peu sidéré, et on me disait, mais comment se peut-il qu'il y ait ça qui se passe dans l'esprit de certaines personnes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de ces personnes qui ont plongé ces avions dans les tours? Qu'est-ce qui s'est passé si ce n'est de la haine? Alors il y a une différence de moyens, il y a une différence effectivement de résultats, là ça a été des milliers de morts. Mais au départ, qu'est-ce qui s'est passé dans leur esprit? La même chose que quand on a de l'aversion ou de la colère. Ce ne sont pas les mêmes moyens qu'on utilise sous l'emprise de notre colère. Et ça ne donne pas les mêmes résultats, je suis bien d'accord. Mais c'est le même fonctionnement de l'esprit. Et ça, il faut bien bien observer notre esprit. Parce qu'on fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de différence fondamentale entre eux et nous, alors qu'on n'a jamais trucidé quelqu'un. Et c'est ce que voulait dire Kalu Rinpoche quand il nous disait « Il n'y a pas de différence fondamentale dans le fonctionnement de l'esprit entre une personne qui déclare la guerre, un chef d'État qui déclare la guerre à un autre pays, et une brouille dans un couple. Il n'y a qu'une différence de moyens et de résultats. Mais au départ, le fonctionnement de l'esprit est le même. Et il rajoutait, dans un couple, ça dure souvent plus longtemps qu'une guerre. Mais il faut voir ça. Il faut comprendre, en fait, que le fonctionnement de l'esprit, c'est exactement le même. Donc, et pour nous, c'est évident que la haine ou l'aversion, elle est cause de souffrance à la fois pour nous et pour autrui. Là, on est tous d'accord. Quand on est sous l'emprise de la colère, franchement, on ne peut pas se dire « Ah, oh, j'ai de la colère, mais qu'est-ce que je suis heureux, quoi. Mon esprit est calme, serein, tranquille. » Pas du tout, quoi. Et puis souvent, le résultat, c'est d'éclabousser tout le monde et d'une façon, bien souvent, qui dépasse ce que l'on voulait exprimer, quoi. Alors, le texte dit que l'antidote à cela, mais c'est l'antidote à tous les phénomènes mentaux, à tous les facteurs perturbateurs, c'est la pacification mentale, hein, c'est dompter notre courant mental. Plus nous méditerons, plus nous purifierons ces tendances que sont les facteurs perturbateurs. Et plus particulièrement pour dompter notre mental par rapport à la colère, eh bien nous devons utiliser les antidotes à la colère que sont l'amour et la compassion. L'amour et la compassion, c'est pas une attitude niaise peace and love et on est tous frères, quoi. C'est pas ça, quoi. Là, on tombe dans la mièvrerie, j'allais dire, désolé, mais post-68 d'attarder, quoi. Développer de l'amour et de la compassion, c'est voir chez l'autre que même s'il m'a insulté, même s'il agit de façon négative, il a cette nature de Bouddha en lui-même. Ça, c'est le troisième cycle d'enseignement que le Bouddha a donné. Tous les êtres ont cette nature de Bouddha. Tous les êtres ont cette nature de sagesse. Vous allez me dire, c'est plus difficile parfois de repérer cette nature de Bouddha chez certaines personnes. Je suis bien d'accord. Mais tous peuvent aimer quelqu'un. Hitler aimait son chien. Ça peut nous choquer, mais on peut reconnaître cette nature de Bouddha chez tout le monde. Mais je pense que pour pouvoir la reconnaître chez les autres, il faut d'abord la reconnaître chez soi. Alors ça, il y a un gros travail à faire, hein, surtout en Occident. Quelles sont vos qualités, quoi? Est-ce que vous êtes certain d'avoir des qualités ou est-ce que vous êtes certain de n'avoir que des défauts? Je suis toujours en colère et puis je réagis toujours comme ci et toujours comme ça, etc. Oui, ça fait partie des voiles. Mais les qualités, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous êtes capable d'aimer quelqu'un? Est-ce que vous êtes capable d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui souffre, quoi? Et personne ici ne peut répondre non à cette question, quoi. Alors prenez soin de ça. Prenez soin de votre nature de Bouddha. Comprenez que la méditation, ça va purifier les voiles. Pourquoi purifie-t-on les voiles? Pour que ces qualités se développent. Mais si vous pensez ne pas avoir ces qualités, qu'est-ce que vous allez développer? Ça, c'est un bodhisattva. Ça, c'est l'attitude du bodhisattva. Et tous les grands bodhisattvas dans le monde, qu'ils aient une étiquette bouddhiste ou d'autres étiquettes ou sans étiquette, ont tous développé leur activité parce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient le faire. Ça s'appuyait sur une grande confiance en eux-mêmes. Ce n'était pas de l'orgueil, mais c'était sur la conscience qu'ils avaient de l'amour à partager, qu'ils avaient de la compassion à partager. Et nous avons tous ça. Notre problème, et ça c'est nos tendances, on met l'accent sur ce qui ne va pas. On met l'accent sur nos défauts. Mais laissez tomber vos défauts. Laissez tomber les défauts, quoi. Cherchez vos qualités et prenez soin de vos qualités. Et voyez la méditation comme un outil pour les développer. C'est quand même plus positif comme démarche que de se dire « Oui, je médite parce qu'il faut que je purifie toutes mes tendances négatives. » Vous savez, il y a des jours, les tendances négatives, on en a ras-le-bol et on se dit « Ma foi, tant pis, quoi. Hein. » Mettez l'accent sur les qualités. Et plus on reconnaîtra nos qualités, notre nature de Bouddha, malgré nos voiles, plus il nous sera facile de reconnaître ces qualités-là eh bien chez l'autre, même si en apparence, on voit beaucoup de voiles chez lui, quoi. Et ça, il faut inverser notre perception première de nous-mêmes et des autres. Il faut tellement l'inverser que dans le Vajrayana, dans le bouddhisme tibétain, dans les pratiques qui sont propres au Vajrayana, eh bien, on n'utilise que les qualités, que la nature de Bouddha. Si vous visualisez Chenrezig, qui est le symbole de l'amour et la compassion, vous êtes Chenrezig. Vous voyez tous les autres en Chenrezig. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une gymnastique mentale à faire. Ça veut dire que si je suis Chenrezig, mais quelles sont les qualités que représente symboliquement Chenrezig que je trouve en moi, quoi? Quelles sont les qualités de Chenrezig que je trouve chez l'autre en face? C'est donc uniquement porter son attention sur cette nature de Bouddha. Ça, c'est tout le troisième cycle d'enseignement qu'a donné le Bouddha. Premier cycle, c'était les bases, les quatre nobles vérités. Deuxième cycle, c'est la vacuité. Troisième cycle, la nature de Bouddha. Tout le Vajrayana se base sur le troisième cycle. Nous sommes dans le Vajrayana. Alors prenez conscience de votre nature de Bouddha. Alors, dit Rinpoche, il cite une histoire, je vais vous la lire. Il aime bien cette allégorie. Il dit « L'une de mes allégories préférées raconte l'histoire d'un berger plein de sagesse qui avait pour habitude de faire paître ses moutons près d'un col au-dessus de son village natal. Un jour, un étranger arriva et demanda « Quelle sorte de gens habitent ce village en bas ?» Le berger l'interrogea en retour « Quelle sorte de gens habitent le village d'où vous venez ?»« Oh, ils sont horribles !» répondit l'étranger. « Ils sont méchants et inhospitaliers. » Le berger dit « Eh bien, les gens de ce village en bas sont tout à fait pareils. Ils sont querelleurs et manquent totalement d'hospitalité. » Entendant cela, l'étranger tourna les talons et s'en alla. Un peu plus tard, un autre voyageur arriva et posa la même question. De nouveau, le berger s'enquit. « Quelle sorte de gens habitent le village d'où vous venez ?»« Ils sont merveilleux, » répondit le second voyageur. « Ils ont bon cœur et sont amicaux. » À lui, le berger dit « Eh bien, vous trouverez que les gens d'en bas sont les mêmes. Ils sont très bons et hospitaliers envers tous. Le voyageur continua donc sa route vers le village. Alors Rinpoche commente, il dit « Pourquoi le berger a-t-il dit deux choses complètement différentes à propos du même endroit ?» Réponse, la façon dont nous expérimentons notre environnement dépend de nos réactions et de nos habitudes. Ben voilà, c'est cela qu'il faut changer, quoi. Alors c'est pas la méthode Coué, hein. C'est pas se dire toute la journée, hein, tous les êtres sont sympas et super, quoi. Hein. Mais c'est de changer notre perception de nous-mêmes et des autres. Rappelez-vous, on parle souvent des perceptions. Les perceptions que l'on a de quoi que ce soit sont toujours liées à nos tendances et au conditionnement de notre esprit. Une perception ne définit jamais la personne, par exemple, telle qu'on l'aperçoit. Si notre perception définissait cette personne en tant que c'est la nature de cette personne, tout le monde l'apercevrait de la même façon. Or, on constate bien que la même personne peut être perçue de façon très différente. C'est-à-dire que chacun perçoit selon ses propres conditionnements. Donc il faut modifier les perceptions. Et nous avons la possibilité de les modifier en reconnaissant eh bien, cette nature de Bouddha chez tous les êtres. Ça, c'est toute la pratique du Vajrayana. Alors, la 21e strophe. Ce qui suscite notre désir est pareil à de l'eau salée. Plus nous en boirons, plus notre soif croîtra. Abandonner à l'instant même ce qui cause de l'attachement est par conséquent la pratique d'un bodhisattva. Alors ça, cette histoire de l'eau salée, hein, ça revient dans beaucoup de textes. Le Bouddha disait, le désir, c'est comme de l'eau salée. Plus on en boit, plus on a soif. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous expérimentez que le désir, cette volition hein, de s'attribuer, par exemple, quelque chose, ou de ce désir, la volition de s'éloigner de quelque chose de désagréable, ça n'a pas de fin, quoi. C'est un puits sans fond, quoi. Même quand on comble ce désir, de toute façon, il y en a un autre qui reprend sa place, etc. Alors pour ça, il faut bien comprendre le fonctionnement de comment naît ce désir. Chaque fois que notre conscience, qu'une de nos consciences, entre en contact avec quelque chose. Par exemple, la conscience visuelle entre en contact avec un objet. Aussitôt apparaît dans l'esprit une sensation. Cette sensation, elle est de trois types seulement. Agréable, désagréable ou neutre. Faites le test, dès demain matin, faites le test. À partir de cette sensation, qu'elle soit, on va oublier la sensation neutre, mais dans le cas de la sensation agréable et la sensation désagréable, apparaît immédiatement ce que l'on appelle la soif dans l'esprit. La soif, c'est un mouvement de l'esprit, involontaire, inconscient, qui se porte sur la sensation, et dans le cas de la sensation agréable, la soif, c'est « je voudrais que cette sensation dure ». Et dans le cas de la sensation désagréable, la soif dit « je voudrais que cette sensation disparaisse ». Mais dans les deux cas, il y a une volition, il y a une soif, il y a un mouvement de l'esprit vers, soit pour s'attirer, soit pour rejeter. Cette soif, elle est trop subtile comme mouvement de l'esprit pour que nous en soyons conscients, en tout cas à notre niveau. J'imagine que celui qui est très avancé sur le chemin, je pense qu'il peut déceler la soif. Mais à notre niveau, c'est trop subtil. Par contre, cette soif, elle engendre ce qu'on appelle la saisie. La saisie, c'est l'esprit qui va dans cette direction de la soif, mais de façon plus solide, plus grossière, on va dire. C'est la soif qui se cristallise, en fait. La saisie, c'est je veux vraiment m'attribuer ce qui m'est agréable et rejeter ce qui m'est désagréable. Et la saisie entraîne le facteur perturbateur. Dans le cas de la sensation agréable, c'est le désir ou l'attachement. c'est je m'attache à ça, je désire que cette sensation perdure, voire se renouvelle si elle a tendance à disparaître. Et dans le cas de la sensation désagréable, c'est l'aversion. Voilà. Alors, on peut travailler sur l'aversion, sur l'attachement ou le désir, mais je pense qu'il faut travailler plus en amont. Il faut travailler sur la saisie. Parce que la saisie, ça se repère. On peut être conscient de la saisie. Demain matin, vous passez devant une vitrine, mesdames, ou je ne sais pas quoi, messieurs, mais bon, vous trouverez bien quelque chose. Mais vous voyez quelque chose dans une vitrine. Ça, c'est le contact. Il y a tout de suite une sensation qui naît. Et cette sensation, c'est, ah bah tiens, il y a une soif qui naît, c'est-à-dire vous commencez à vous arrêter, vous regardez. Et à partir de la soif, il y a la saisie, c'est, mais je voudrais bien m'attribuer cet objet. Ou alors ça ne m'intéresse pas du tout, et puis il y a même de l'aversion, et là vous disparaissez. Mais le mouvement de l'esprit, il se passe toujours de cette même façon, quoi. Et la saisie, ça entraîne le facteur perturbateur, bah c'est, ça je le veux, et le facteur perturbateur entraîne un acte, c'est-à-dire vous entrez dans la boutique. Mais c'est ce déroulement par lequel ça se produit dans l'esprit. Se libérer des facteurs perturbateurs, c'est plus difficile parce qu'ils peuvent être puissants. Si on en est conscient dès qu'ils apparaissent dans l'esprit, comme disent les textes, ok, c'est une étincelle dans la forêt, il n'y a pas encore le feu à la forêt. Mais bien souvent, on manque de vigilance pour reconnaître cet instant-là. Et quand on en prend conscience, il y a déjà le feu à la forêt, hein, il faut sortir les canadaires. Par contre, avec la vigilance, avec la méditation de la pacification mentale, on peut être conscient de la saisie. Et que faire quand on est conscient de la saisie? C'est juste la regarder et ne pas s'y accrocher. Elle disparaît. Le facteur perturbateur qui devrait suivre normalement ne peut pas s'élever dans l'esprit. Et là, c'est la libération immédiatement de ce mouvement de l'esprit. C'est pour ça que, vous savez, Lama Tenpa Gyamso, ce Tibétain qui vit en ermite depuis 88 dans les Landes, et que l'on voit tous les 5 ou 7 ans, on l'appelait, nous, quand il nous donnait des enseignements, on l'appelait Lama Rangbap. Parce que Rangbap, littéralement, ça veut dire laisse tomber. T'accroche pas, laisse tomber. Parce que quand on allait le voir en lui disant, ouais, mais Lama, j'arrive pas. J'ai ça dans la tête, et ça tourne, etc. Il nous regardait, rangbap. On lui a dit, mais pourquoi tu t'accroches à ça, quoi? Laisse tomber, lâche. Mais ça, tous les pratiquants Mahamudra vous parlent de rangbap, quoi. C'est-à-dire, bah oui, il y a une saisie, c'est cette saisie qui te rend malheureux, qui te fait souffrir, qui t'empêche de dormir parce que ça tourne sans arrêt. C'est la saisie. Laisse tomber, lâche. Quand vous lâchez vraiment, en un instant, tout s'ouvre. Ça ne veut pas dire que la situation, elle n'est plus là, qu'elle disparaît. Mais c'est la réaction de votre esprit, mais qui se détend en un instant. Et votre esprit n'est plus perturbé par la situation. Et là, vous pouvez vraiment gérer la situation et apporter la réponse qui convient le plus juste possible, quoi. Il faut faire cette expérience de la non-saisie. Parce qu'on voit bien que c'est dans la non-saisie eh bien, qu'on trouve la clé de la libération. Alors que dire une potée là-dessus? La seule façon de nous satisfaire est de mettre un terme à notre envie irrésistible et d'arrêter de céder à notre désir. Alors, l'attachement doit par conséquent être abandonné. Mais ce faisant, nous ne devrions pas devenir crispés. Une fois que nous sommes conscients d'être attachés à quelque chose et avons pris la résolution de venir à bout de notre envie irrésistible, nous ne devrions pas ressentir de culpabilité ou de panique si nous y succombons à nouveau. Alors ça, c'est très important, hein. Retenez bien ça. Hein. Il n'y a pas à succomber dans la culpabilité si un jour, eh ben, ma foi, ça ne marche pas et on se laisse aller à notre attachement, quoi. Hein. Ça fait partie du chemin, quoi. Je dis toujours, on est sur le chemin de la perfection, donc on n'est pas parfait. Hein. Et ça jusqu'à l'éveil. Hein. Donc il y aura des ratés, quoi. Et ça fait partie du chemin. Donc, pas besoin de culpabiliser. Quand il y a une ratée, il faut se relever et se remettre en marche. Il faut repartir et reprendre son chemin de pratiquant. En comprenant aussi pourquoi il y a eu une ratée. Peut-être que j'ai manqué de vigilance, voilà. Mais on repart, quoi. Vous savez, si demain vous décidez d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, je pense qu'il y a des jours où vous risquez quand même de vous asseoir sur le bord de la route en disant « Mais attends, t'es pas Martousse, que t'es pas malade là, est-ce que je continue ou est-ce que je prends un train ?» quoi. Ben voilà, c'est la même chose pour notre pratique. Nous avons eu nos habitudes pendant très longtemps. Se faire prendre une fois de plus ne fait pas de nous les pires des personnes. Nous ne pouvons que nous améliorer et c'est ce que nous devrions faire, doucement, par étapes, et en même temps avec une ferme résolution. Donc il faut de la douceur, mais en même temps, la fermeté dans notre résolution et bien de poursuivre le travail intérieur. Quoi. Donc voilà pour ces trois plans de travail pour le mois qui vient, quoi, on va dire. Alors ne vous dites pas, il y a beaucoup de travail. Dites-vous que vous avez les moyens pour travailler. Point. Après, s'il y a beaucoup de travail, ben, ma foi, ça prendra le temps que ça prendra. Et comme dit Rinpoche, c'est une voie progressive, graduelle. Donc, voilà. Soyez pas pressés d'arriver. Ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être de cheminer. Quoi. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ?
Excusez-moi, vous parliez de l'attachement à un objet ou à des personnes. Qu'est-ce que vous pensez de l'attachement, par exemple, à un lieu, à la terre, à ce, qu'on, enfin, ce qui nous vient souvent de nos ancêtres, de nos parents. Est-ce que ça peut être positif ou est-ce que c'est comme tout autre objet ou comme l'attachement qu'on peut avoir envers une personne, quelque chose qui peut être négatif?
L'attachement est cause de souffrance, quel qu'il soit. Après, vous pouvez très bien adhérer à certaines valeurs, par exemple, oui, vous êtes fier d'appartenir à telle terre, à telle culture, à ce qui vous constitue, etc. Oui, ça c'est très bien, mais voyez tout cela comme impermanent, comme instable, quoi. C'est fragile, tout ça. Les Tibétains, par exemple, qui ont quitté leur terre par obligation, il y en a beaucoup qui voudraient retourner, etc. Mais c'est vrai que beaucoup nous disent, bon, c'est comme ça, je suis maintenant en Inde, bon, ben voilà, je vis en Inde. Et alors, ils peuvent avoir la nostalgie parce que, oui, il y a leurs ancêtres, etc. Mais ils relativisent. Ils relativisent beaucoup. Ils se disent, bon, bah, présentement, je suis là, quoi. Et je vis là. Alors, je peux avoir gardé les valeurs, ils peuvent garder les valeurs de leur culture, etc. Mais ils savent, et ça, chez les Tibétains, c'est assez fort quand même, ils savent que tout est fragile. Et qu'on ne peut pas établir quelque chose de fragile comme une valeur absolue. Parce qu'on est sûr de souffrir si on est dans cette façon de concevoir les choses. Appréciez tout ce que vous avez, appréciez tout ce qui vous constitue, tout ce qui fait ce que vous êtes aujourd'hui. Appréciez-le, vivez avec si vous pouvez vivre avec, mais évitez de développer de l'attachement. Alors, l'attachement à son conjoint ou l'attachement à ses enfants, ne commencez surtout pas par ça. C'est impossible à travailler directement là-dessus, quoi. On est tellement attaché. On ne voit même pas comment on peut aimer sans attachement. Parce que les deux sont complètement imbriqués. On ne peut même pas concevoir qu'il puisse y avoir de l'amour sans attachement. Je pense que ça peut venir après par la suite. Quoi. Mais reconnaissez au moins une chose, c'est que l'attachement est quand même cause de souffrance. Quoi. Quand l'objet, entre guillemets, d'attachement disparaît ou n'est plus là, comment est votre esprit, quoi. Est-ce qu'il y a frustration, est-ce qu'il y a souffrance, etc. Mais quand on parle de ça, alors en Occident, on voit que, bon, alors le détachement, c'est je dois me couper de tout, je dois me séparer de tout ça. Pas du tout, pas du tout. Ça me fait penser, vous savez, le Dalai Lama, une fois, il était venu à Paris. Et alors, pour des raisons de sécurité, l'État français, le gouvernement, l'avait logé au Crillon, place Vendôme. Non, pas place Vendôme, place de la Concorde. Et il y avait des journalistes qui lui étaient tombés sur le dos en disant, bah, bravo pour un moine, etc., qui travaille le renoncement, au Crillon. Et Dalai Lama, assez presque naïvement, avait dit, mais un lit est un lit, quoi. Alors je suis d'accord, il y a peut-être des lits plus confortables que d'autres, c'est peut-être plus confortable au crayon que dans une cellule de moine, je suis d'accord, mais pour lui il n'y avait aucun attachement à ça, quoi. C'est-à-dire qu'il était très libre, on lui offrait ça, bah, il appréciait, hein, c'est sûr, il fait comme tout le monde, vous allez au crayon demain, vous allez apprécier, mais on lui offrait un lit de camp militaire, il dormait de la même chose, quoi. C'est-à-dire que son esprit, eh bien, n'éprouvait pas une frustration, par exemple, à cela. Voilà. Il était libre. Son esprit était libre de cela. Donc, le détachement, c'est être libre. Ça ne vous empêche pas de vivre ce qui est agréable et très bien. Rinpoche, par exemple, il y a des choses qu'il aime et puis des choses qu'il n'aime pas, quoi. Mais son esprit est libre. C'est-à-dire que si vous lui apportez à manger ce qu'il aime, il va apprécier, quoi. Mais si vous lui apportez tout à fait autre chose, il ne va pas être frustré. Voilà, c'est ça. Et c'est pas du tout le détachement. Ben je vais vivre alors dans la misère parce qu'il faut que je sois détaché de la richesse. Non, c'est pas ça du tout, quoi. Si vous êtes riche, mais tant mieux, quoi. Profitez-en, faites-en profiter tous les êtres aussi. Voilà. Mais ne soyez pas attaché parce que un jour, de toute façon, même si ça dure pendant toute votre vie, mais un jour, ça va se terminer. Simplement par le fait que vous allez mourir et que vous ne pourrez rien emporter de votre compte en banque, quoi. Oui.
Quelle est la différence entre le non-attachement, le détachement et le renoncement?
Mais c'est la même chose. Enfin,
je pose la question.
Pour moi, c'est la même chose. On renonce à quoi? À la souffrance. On se détache ou on renonce à l'attachement parce que, eh bien, l'attachement fait souffrir. C'est toujours une question de quoi se libère-t-on, quoi. Le but du dharma, c'est la libération. C'est un mot qui veut dire ce qu'il veut dire, quand même. De quoi se libérer? Ça, c'est la deuxième noble vérité, de la souffrance. Alors, il y a des gens qui disent, oui, les bouddhistes, vous êtes toujours en train de parler de la souffrance, des fois, c'est... Est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière? Mais... Personne n'a envie de souffrir. Personne n'a envie de souffrir. Vous n'avez pas envie de voir souffrir vos enfants ou votre conjoint. Absolument pas. Vous pouvez éprouver une grande compassion dans votre esprit si votre enfant est malade, souffre, etc. Vous n'avez pas envie de ça. Personne n'a envie de ça. Même un animal va protéger ses petits d'un prédateur, etc. Il n'y a pas un être qui a envie de souffrir. Donc le dharma propose, eh bien, puisque vous ne voulez pas souffrir, connaissez la cause de cette souffrance et libérez-vous. C'est l'expérience qu'a faite le Bouddha, quoi. Le bouddhisme, vous savez, ça se base sur quelque chose d'extrêmement pragmatique, quoi. Pratique, ça ne répond absolument pas à la question est-ce qu'il y a un créateur, pas de créateur, qui a créé le monde. Le bouddhisme ne répond pas à ça. Il répond, le Bouddha a pris conscience que tous les êtres voulant ne pas souffrir, souffrent. Donc il s'est dit, mais pourquoi? Donc il a analysé ça, il a vu qu'il y avait une cessation possible à cela, et ensuite, il a montré le chemin pour cette cessation. Voilà. Le problème, c'est que je souffre donc je suis, hein, pour certaines personnes. On connaît beaucoup la souffrance, comme disent les textes depuis des temps sans commencement. Donc j'ai négocié avec la souffrance et je continue de négocier. Et de mettre en place que la souffrance, eh bien, me devienne à peu près supportable. Et on ne connaît que ce mécanisme. On ne connaît pas l'état de non-souffrance. Je fais souvent le parallèle avec la maladie physique. On connaît l'état de bonne santé quand tout va bien. Donc quand on est malade, on veut retrouver cet état parce qu'on le connaît. Et c'est pour ça qu'on se soigne. Le problème de l'esprit, on ne connaît pas l'esprit sans souffrance. On n'imagine même pas ce que ça peut être d'être libéré. Alors c'est un peu des chimères pour nous quand même. On peut le constater chez l'autre. Un Rinpoche qui vient, le Dalai Lama, on sent très bien que le Dalai Lama est totalement, quand vous êtes un peu à près de lui, qu'il est totalement libre, quoi. Karmapa, c'est pareil, Rinpoche, c'est pareil. Donc on peut sentir qu'il y a quelque chose chez eux, quoi. Mais bon, on l'a pas vécu, quoi. Alors on sait pas trop. Quelquefois, ça peut même sembler devoir sauter dans le vide, quoi. Où est-ce que je vais? Il faut vraiment faire confiance, hein. C'est pour ça que c'est difficile. Mais si on expérimente que la non-saisie libère, et la non-saisie quand même, hein, on peut tous en faire l'expérience. Hein. Avec un peu d'entraînement, on arrive très vite à voir la saisie se manifester, et ok, je laisse passer. Et là, on se rend compte que ce que ça engendrait comme inconfort, ne serait-ce qu'inconfort, ça se libère instantanément, quoi. Et que notre esprit reste... retrouve son calme, sa sérénité et sa paix, quoi. Quand on commence à expérimenter ça, on voit que ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça fonctionne. Et ça fonctionne depuis 2600 ans. Par un homme, j'allais dire un mec, par un homme qui a découvert cela, qui a réalisé cela sans aucun instrument, quoi. Simplement par l'observation de son esprit et par l'entraînement de son esprit. Je pense que si vous voulez vraiment comprendre ça plus profondément, il faut vraiment vous attaquer à étudier les quatre nobles vérités. C'est le premier enseignement que le Bouddha a donné, c'est ce qui fonde toute la pratique bouddhiste dans les écoles, dans tous les pays bouddhistes, quel qu'il soit, que ce soit le bouddhisme zen japonais, que ce soit le bouddhisme tibétain ou le bouddhisme thaï, peu importe. Toute la doctrine, c'est les quatre nobles vérités. Ce qui fait ensuite les différences entre ces différentes écoles, c'est la diversité des moyens méditatifs qu'a proposé le Bouddha. Voilà. Mais la base est la même et le but est le même pour tous. Autre chose ?
À propos du désir, quand on veut quelque chose et qu'on est un peu emporté par cette volonté-là, est-ce qu'il est vrai aussi que le faire, le vivre complètement, c'est aussi une manière de se détacher de cette envie qui est toujours présente? Est-ce que c'est vrai? Et si oui, à quel moment on fait la distinction entre le faire complètement ou continuer à essayer d'en être détaché et s'empêcher de le faire?
Alors, je ne peux pas vous répondre parce que cette méthode, c'est pas spirituel, c'est psy. Et là, il y a une différence de méthode. Nous, on n'enseigne pas ça. Dans la spiritualité bouddhiste, on n'enseigne absolument pas ça. Pour nous, le vivre complètement, c'est peut-être davantage prendre conscience de notre dépendance, de notre addiction, par exemple. Mais c'est en aucun cas envisageable que le vivre pleinement nous libère. Alors, la psy prône ça parce que peut-être que ça aide à être beaucoup plus conscient. Oui, et ça pourquoi pas. Mais je ne pense pas que cette attitude libère de quoi que ce soit. Parce que c'est comme de boire de l'eau salée. Et en tout cas, c'est pas du tout une méthode enseignée pour, dans le bouddhisme. Après, bon, il faut se souvenir que la voie est graduelle. Hein. Donc, nos addictions, on en a tous. Et je pense qu'on peut vraiment travailler sur, sur des types d'addictions, entre guillemets, si, pendant des années, nous nous sommes entraînés à travailler sur d'autres formes d'attachement beaucoup plus, comment dire, moins intenses, en tout cas, et sur lesquelles on peut travailler. Je crois beaucoup à l'entraînement de l'esprit. Quand l'esprit est bien entraîné, alors il a cette habitude et plus il est entraîné, plus l'habitude eh bien, peut se porter sur des situations beaucoup plus intenses émotionnellement, par exemple. Mais il faut commencer par petit, quoi. C'est pour ça que je parlais du bibelot, quoi. Sinon, c'est impossible. N'allez pas dès demain commencer à travailler sur l'attachement que vous avez pour votre femme ou vos gosses, quoi. C'est impossible, ça. À l'heure actuelle, c'est impossible. Voilà.
Mais c'est vrai que
personne ne vous dira de commencer comme ça, quoi. Enfin, et vous vouliez dire ?
Oui, je disais par rapport aux enfants, c'est vraiment possible d'arriver à détachement.
Vous voyez, on ne peut pas l'envisager. Ouais. Ouais. Alors, tant qu'on ne peut pas l'envisager, il ne faut surtout pas travailler là-dessus, quoi. Voilà. Mais bon, il y a d'autres formes d'attachement qui nous font souffrir, non? Vous savez, l'attachement à soi-même, l'attachement à son corps, hein. C'est très puissant, ça aussi, l'attachement à son corps. Et on est dans une civilisation où il faut être attaché à son corps. Il y a tout un pan économique qui s'écroulerait en un instant si on n'était pas attaché à notre corps. Hein. Vous voyez lequel, quoi. C'est très clair, non? Et l'attachement qu'on a à notre personne, à notre réussite sociale, professionnelle, et à notre réussite financière ou je sais pas quoi, enfin, au personnage que je suis, quoi. On a tellement d'attachement à son corps que l'identification à un yidam, vous avez des hommes qui sont incapables de se visualiser sous l'aspect d'un yidam féminin, par exemple, et inversement. Ça veut dire qu'on a une très très forte identification à cette apparence. Donc il y a des tas de formes d'attachement sur lesquelles on peut travailler. L'attachement aux cheveux pour les hommes.
Les hommes qui deviennent chauves.
Ah oui, et vous croyez qu'il n'y a pas d'attachement aux cheveux pour les femmes? Eh ben alors ça. Hein? Non? Vous croyez? Oh oui. Allez voir les moniales qui doivent se raser la tête, hein? Les hommes, on trouve ça très pratique. Et nos vêtements selon notre culture, etc. Combien on est attaché à tout ça. Et nos petits gris-gris du dharma, notre mala, notre cloche, notre dorje, et nos petites tentures, et notre autel, et combien on est attaché à tout ça. Le mala qui a été béni par le Dalai Lama ou par tel Rinpoche, vous êtes prêt à le donner au premier bouddhiste qui vient?
Ah tiens. Même pas l'avoir au départ.
Comment ?
Il faudrait même pas l'avoir au départ.
Oui, mais ça peut être un outil de pratique. Et on en fait toute une histoire de ce mala. Le mala, c'est le chapelet bouddhiste. Hein. Etc, etc. C'est bon ? Autre chose ? Ça va ? Alors, saluez bien Jacqueline. Hein ? Annoncez-lui la mauvaise et la bonne nouvelle. Ne donnez que la bonne alors. Oui. Comment? Oui. Est-ce que il y a des personnes d'entre vous qui sont à Luce le week-end prochain pour Rinpoche? D'accord. Vous prenez le même train toutes les trois?
Oui.
Et Brigitte. Il y a qui?
Hélène.
Je ne crois pas que c'est Hélène. Et qui
ah,
ça
oui, deux nouvelles, Hélène et Patricia.
D'accord, ouais, très aussi. Bien. Et vous aussi? Mais vous y allez en voiture, d'accord. Okay.
Ah oui, ça fait 6 personnes.
C'est bien. Bon, ça vaut le coup de continuer alors à Meudon.
Oui, oui.
La retraite, bah, il n'y a rien à dire quand on est en retraite. Il n'y a rien qui se passe.
C'est interdit.
Non, pas du tout. Non, c'était bien parce que d'abord on était dans un cadre idyllique, au Sikkim, à 3 km de Rumtek, donc sur la colline où il y a le monastère du Karmapa. Et en face du centre de retraite, il y avait la ville de Gangtok, sur la colline, et toute la chaîne himalayenne derrière. Donc c'était splendide. On a eu un très beau temps et on avait 6h30 de pratique personnelle par jour, plus 2h d'enseignement direct de Rinpoche. Alors Rinpoche a beaucoup insisté sur la nature de l'esprit, voilà, mais il a beaucoup insisté sur notamment la purification des voiles. Il disait on ne peut pas réaliser si on a des voiles qui nous empêchent la réalisation, ça c'est clair. Donc il faut purifier. Moyen de purification, les paramitas. Les paramitas, les nundros si vous êtes les préliminaires, si vous êtes dans les pratiques du Vajrayana. Hein? Mais la bodhicitta, à la fois la bodhicitta relative et la bodhicitta ultime. La bodhicitta, ce n'est pas seulement la bodhicitta relative. Bodhicitta relative, c'est tout ce que l'on peut faire pour aider les êtres. Mais concrètement, par le corps, par la parole et par la pensée. Ça, c'est la bodhicitta relative. Mais il faut aussi la bodhicitta ultime, c'est-à-dire la non-saisie, cet entraînement à la non-saisie. Voilà. Ça, il a beaucoup insisté là-dessus. Sur quoi il a insisté aussi? Il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui. Rinpoche a une... Vous savez, il est en apparence très ordinaire. Il se promène avec tout le monde, mange avec tout le monde, il n'y a pas de protocole avec lui, etc. Ce n'est absolument pas quelqu'un d'ordinaire quand il parle de la nature de l'esprit. Le Mahamudra, il sait, c'est un mot équivalent de la nature de l'esprit, le Mahamudra, il sait exactement ce que c'est, quoi. Et dans sa transmission, c'est une transmission orale, de maître à disciple, c'est vraiment une transmission, comme disent les zen, ishin denshin, d'esprit à esprit. Quoi. Ça, c'est absolument évident chez lui. Il ne transmet pas en lisant un bouquin, en se disant la nature de l'esprit, ben voilà, c'est comme ça, et puis il en fait le commentaire. Ce qu'il transmet, c'est exactement ce qu'il vit. Soyez attentifs à ça, parce qu'il y a des introductions à la nature de l'esprit dans la plupart de ses enseignements. Seulement, il n'annonce pas la couleur. Il ne dit pas, bon, attendez, on va faire une introduction à la nature de l'esprit, mettez-vous en méditation, soyez ouverts et disponibles et écoutez bien, quoi. Non, non, non. Mais dans l'enseignement, il parle de la nature de l'esprit. Donc, il faut être dans l'écoute pendant l'enseignement. Ceux qui viennent à Luce, écoutez-le, ne prenez pas de notes. Écoutez-le dans une attitude, mais complètement de réception totale à ce qui est dit. Quoi. Imaginez-vous au pied du Bouddha, et que c'est le Bouddha qui parle, c'est le Bouddha qui vous transmet le Dharma. Soyez totalement ouvert. Si vous êtes ouvert, il y a des instructions qui passeront et qui créeront une expérience dans votre esprit. Vous vous direz, mais ça, je l'ai déjà compris, je l'ai déjà entendu des dizaines de fois, paf, mais là, ça fait tilt, quoi. Il y a quelque chose qui se passe. Rinpoche, c'est sa méthode. C'est la méthode de tous les maîtres du Mahamudra. Les véritables maîtres du Mahamudra ou du Dzogchen, pour les Nyingmapa. Rinpoche est vraiment comme ça. Quoi. Et il a une dévotion pour tout ce qui est de la lignée de transmission, et notamment de ses maîtres. Vous parlez avec lui de Dilgo Khyentse Rinpoche et du 16e Karmapa, il en a les larmes aux yeux. C'est pas quelqu'un d'ordinaire, quoi. Tout ce qu'il a pu réaliser, c'est par le Guru Yoga, c'est par la dévotion. Il nous a redit, il n'y a pas de pratique supérieure que le Guru Yoga. Ça ouvre totalement l'esprit, quoi. Toutes les voies spirituelles utilisent la dévotion. Parce que ça ouvre totalement l'esprit. Quand l'esprit est ouvert, il n'y a plus de voile. Et là, l'influence spirituelle, la compréhension, enfin la nature spirituelle, mais s'intègre en vous et vous la réalisez, quoi. Donc dans votre pratique, repensez aussi à la lignée, à l'importance de la lignée de transmission depuis le Bouddha historique Shakyamuni jusqu'à l'ensemble des lamas de qui vous recevez des instructions, etc. Un lama ne peut pas enseigner s'il n'est pas rattaché à la lignée. Il a été le disciple de quelqu'un, lequel son maître a été disciple d'un autre maître, et on remonte comme ça jusqu'au Bouddha historique. Et Rinpoche, quand on parle de ça, alors il a une énorme gratitude. Parce que ce que nous pouvons apprendre, expérimenter aujourd'hui, mais ça vient de par cette transmission, quoi. Vous imaginez que si cette transmission était coupée, nous n'aurions pas accès, on aurait accès peut-être à d'autres, mais en tout cas cette voie-là ne nous permettrait pas de réaliser le fruit de cette transmission. Aujourd'hui, c'est encore possible. Et ça vient par la compassion, par la transmission, de tous ces maîtres du passé, quoi. Et ça, Rinpoche, c'en était émouvant. Quand vous chantez, vous savez le mantra du Guru Yoga que j'ai mis en musique et qu'on chante à Rinpoche, par exemple. Mais Rinpoche, quand vous lui chantez ça, il est là les yeux fermés, quoi. Et il se relie, il se reconnecte avec la transmission, quoi. Donc ça, c'était deux aspects vraiment fort pendant la retraite. Et on ne le voyait qu'une fois par jour, que pour l'enseignement. Il vivait lui aussi en retraite. Il avait sa chambre, son petit appartement au sommet du centre de retraite, sa terrasse, et on ne le voyait jamais pour les repas. Il ne venait que pour l'enseignement. Et par contre, il nous a pris un par un à la fin de la retraite. On avait une demi-heure pour lui expliquer ce qui se passait dans notre esprit. Ça, il voulait vérifier, quoi. Voilà. Et alors, on lui a tous dit, ne vous privez pas de renouveler l'expérience, hein. Prochaine retraite, on s'inscrit, quoi.
Vous étiez combien ?
On était 15. Alors, ça venait d'un peu partout. On devait être 17, mais il y en a deux qui, au dernier moment, ont annulé. Il y avait une fille qui venait de New York. Il y avait irlandais, anglais, allemand, écossais, français, portugais, de Trinidad. Il y avait un moine qui venait de Trinidad. Finlandais, norvégien. Voilà, on est un peu de toute l'Europe. Non. On était trois lamas. Oui, trois lamas. Comment ? Que des Européens. Donc c'est tout en anglais, il n'y a pas de traducteur. Hein. Donc voilà. Mais Rinpoche, à chaque enseignement, en fait à chaque enseignement, il disait la même chose. C'est-à-dire qu'il nous montrait comment demeurer dans la nature de l'esprit, et c'était toujours ça, quoi. Voilà. L'année dernière au Portugal, c'est ce qu'il a dit pendant une semaine. Hein. Je vous dis juste ça. Ce qui était au Portugal l'an dernier au Summer Camp, c'est ce qu'il a dit pendant toute la semaine, quoi. Et j'ai l'impression que Rinpoche, l'histoire de cette retraite a été mise sur pied l'an dernier au Portugal.
Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était la même chose ?
Oui.
Il redisait la même chose.
Oui, mais avec beaucoup plus d'insistance, et puis surtout, on avait le temps de méditer, c'est-à-dire de mettre en pratique ces instructions, quoi.
De la même façon également.
Qu'au Portugal ? Oui. Exactement. Exactement.
Vous avez choisi un petit peu,
pardon ?
Vous n'avez pas choisi un peu, vous n'avez pas...
Choisi.
Vous n'avez pas discuté un peu avant ? Je crois que j'ai entendu que c'était François qui avait...
Choisis quoi ?
Le Belge.
Oui, mais choisis quoi ?
Le thème.
Pour le Portugal ?
Ah non, pour le...
Non. Ça c'est Rinpoche. Alors François a dû discuter avec lui, mais Rinpoche, il n'a qu'une envie, c'est d'enseigner ça, quoi. Ah ben vraiment, quoi. Et la façon dont il insiste pour qu'on expérimente ça, ça c'est très clair dans son esprit. Et ce que je voulais dire, c'est que l'an dernier au Portugal, il a quand même mis l'accent déjà là-dessus, quoi. Donc j'ai l'impression que Rinpoche, il veut qu'on y arrive, quoi.
Ça, vraiment. Ça bloque là,
pardon?
Peut-être qu'il sent que ça bloque là, le niveau de conscience.
À un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne sent pas qu'il va bientôt partir, quoi? Et qu'il veut vraiment tout donner pour qu'on y arrive, quoi. Bon, à part. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que vous êtes malade? Mais vraiment, en entretien, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, vous n'avez pas de cancer? Il m'a dit, non, pourquoi? Je lui ai dit, bah, j'ai un peu l'impression que vous nous poussez, quoi. Il dit, il faut que vous y arriviez tous, quoi. Et vous vouliez dire, Michel?
Je voulais juste dire, heureusement, il vient à Cagliuzzo pour ceux qui ne peuvent
oui,
pas aller au Portugal
bien sûr.
Ou à Luz.
Oui, oui, exactement. Et on y sera d'ailleurs à Cagliuzzo. Ah, Luz, on vient à Cagliuzzo. Cagliuzzo, c'est un temple qui est dans le bois de Vincennes, à Paris, dans le 12e.
Et pour Candro, vous me passez, vous venez? C'est fin mai.
Elle est où?
À Vincennes.
Mais moi je vais lui passer un savon parce que elle vient tous les années à Vincennes et moi je lui demande de venir à Luz. La dernière fois c'était en 2012.
C'était l'année dernière.
Ouais, donc je vais revenir là. C'est une ricochet femme. Et ah ouais, bah je vais revenir. Je vais dire alors et nous quoi, avec ma lettre d'invitation comme à chaque fois. Alors elle rigole parce qu'elle me voit un jour à Berlin, un jour à Paris, pour toujours avec ma lettre d'invitation. Quoi. Mais là, je veux lui dire, bon, alors, on les oublie, quoi.
Qu'elle sente une motivation.
Oui, ça, c'est clair. L'invitation par mail, ça ne marche absolument pas chez elle. Il faut que les lamas se déplacent. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de temps pour faire venir davantage de Rinpoche à Luz. Et pour ça, il faut que je me déplace, quoi. Il faut que j'aille les inviter, quoi. Si Candro Rinpoche est là fin mai, je ne sais pas ce que je fais fin mai, mais... il faut que je sois libre et que je vienne la voir, quoi. Elle est venue à Luz parce que je suis...
30-31 mai, c'est mardi, mercredi.
Oui, ben ça devrait coller parce qu'il n'y a plus de tuning, normalement, à la fin du mois. Mais quand elle est venue à Luz, c'est parce que je suis allé à Berlin et je suis retourné la voir à Paris pour vraiment l'inviter, quoi. Elle, ça marche comme ça. Elle est tellement invitée partout.
Ben oui.
Mais bon, Kai Guzang, elle a un abonnement, hein.
À la grande pagode tous les ans.
Oui, donc ça, là, je veux lui faire remarquer quand même qu'il y a un abonnement. Bon, mais il y a du monde hein, sur Paris.
Et puis il y a un lieu qui est vaste aussi.
Ouais.
Et c'est Ringo Rinpoche qui fait les Mönlam.
Oui, comme chaque année, il est envoyé par le Karmapa pour ça.
Non, là, il s'est fait remplacer par Ayang Rinpoche. Il y a deux années, là, où il s'était fait remplacer.
Mais l'année alors, précédente, c'était...
Avant, il y a
oui,
ouais.
D'accord. Ouais. Ouais. Mais normalement, il est envoyé par le Karmapa pour ça. Mais moi, je lui ai dit hein, que je ne dirais pas. Moi, j'ai une overdose du tibétain. Hein. Toute la journée, réciter des trucs en tibétain...
Alors,
oui, ça te rappelle. Non, moi ça me.
Il y a une année, il y avait un Noumzé.
Un
Noumzé. Ah
ouais.
On était portés.
C'était l'année dernière.
C'est vrai?
Pas l'année dernière, mais l'année d'avant.
Ah ouais. Ouais, mais toute la journée.
Toute la journée, 3-4 jours, hein?
Ouais, 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 ouais.
Ah ouais, c'est.
Alors, même si on a les traductions, etc., il n'y a pas la phonétique, alors il faut tout lire en tibétain. Enfin, non, puis moi, ça, c'est plus mon truc. J'ai trop fait ça. Voilà. Je lui ai dit, hein, je lui ai dit, je ne viendrai pas. Alors, il nous a dit une chose quand même au sujet du chant, par exemple, parce qu'il nous a chanté la prière d'Orje Changtungma tous les matins, mais en tibétain, avec la mélodie composée par le 17e Karmapa, le Karmapa actuel. Alors il y en a qui disaient, mais Rinpoche, on n'en comprend rien, on devrait la chanter en anglais. Il a dit, mais vous savez, quand j'écoute moi de la musique rock, je ne comprends rien. Même si je parle très bien anglais, je ne comprends rien, quoi. Mais je me laisse porter par la musique. Il a dit, en se tournant vers moi, il dit, l'opéra c'est la même chose, hein, on ne comprend rien de ce qu'il chante. Alors il a dit, de temps en temps, laissez tomber la tête et laissez par le chant exprimer votre cœur. Voilà. Par cette vertu, puis-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Merci à tous. Merci.